sac à munitions.
On fait demi-tour?
Non, y a pas le temps.
Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir.
Minute, ça va trop vite. On ralentit la cadence.
Dans 2 minutes, elle va devenir une... Une zombie, pas un vélociraptor.
Au moindre geste un peu louche, vous prenez une balle.
A besoin de vous faire un dessin.
Salut Monsieur Masque.
Bonsoir Monsieur Tronçonneuse.
Comment allez-vous dans cette belle soirée ensoleillée d'un mois d'avril bien confiné?
Ah non, moi je suis dehors, je suis dans un restaurant clandestin. Mais je suis...
Ah ouais. Monsieur a ses entrées au Vivian's Palace.
C'est ça, c'est ça. Non, ça va très bien. Bonsoir à tous. Donc, vous êtes sur bien l'autre radio.
Sur l'autre radio, dans le masque et la tronçonneuse.
Dans le masque et la tronçonneuse. Donc, l'autre radio 107.9 à Château-Gontier, sud Mayenne, et puis 101.7 sur le milieu Mayenne, et bientôt, sans doute, sur le nord Mayenne. On verra bien.
Et sur le www.l'autreradio.fr.
Là, dans ce cas-là, c'est dans le monde entier, voire même un peu plus loin.
Parfois, dans la station spatiale internationale, ils nous écoutent. On le sait. On les salue, d'ailleurs.
On les salue. Et moi, je voulais commencer par un petit remerciement, Laurent, puisque j'ai par mon talent de bricoleur, j'ai réussi à avoir trois. Enfin, j'ai été contraint de 3 semaines d'arrêt récemment. Donc, je me suis abonné à Shadows. Et ben, c'est pas mal quand même, Shadows.
T'as sympa, vu, c'est ouais. Bien. Hein.
Ouais, c'est bien. Ouais. Et puis, il y a que des films que ben, tout n'est pas super, mais tout est pas mal quand même, parce qu'il y a de la violence, il y a beaucoup de rouge. Voilà.
Il y a surtout des très bons films à redécouvrir.
Exactement, exactement.
C'est surtout ça qui est intéressant.
Ce qui m'a permis de voir dernièrement Evil Dead 2, que bizarrement je n'avais pas vu. J'avais vu le 3, j'avais vu le premier, mais je savais que le 2 et le premier étaient très, très similaires pour beaucoup de points. Et dans le 3, il y a la fin du 2 de toute façon. Donc,
voilà. Le 2, c'est le remake du premier par le même réalisateur avec des moyens.
Des moyens,
des prouesses techniques. Des prouesses
c'est extraordinaire, surtout que... Alors, le 2, si je ne dis pas de bêtises, c'est un film qui a 30 ans, et un peu plus de 30 ans, je crois. Et, et c'est un film qui... Il n'y a pas d'effets spéciaux numériques. C'est vraiment fait... C'est de la bidouille, et c'est génial, en fait.
Voilà. Ah, on pourra peut-être en parler, mais il y a beaucoup de séquences image par image sur les maquillages, sur les transformations. Il y a beaucoup d'humour, c'est très drôle.
Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'animation d'objets aussi, image par image, mais aussi par un système de marionnettes. Et ça donne un petit côté, moi ça m'a fait penser à ce que Caro et Jeunet faisaient à certains moments aussi. Enfin, c'est du délire. Quoi. Et c'est visuellement,
c'est du pur délire. Ouais, voilà. C'est du pur délire.
Donc voilà.
Avec cette fameuse scène en bout de mobilette, enfin la scène en fait, où la caméra traverse toute la forêt, passe à travers un pare-brise, puis continue dans la maison, etc. Ça a été repris récemment pour 1917, ce système-là, où en fait, d'abord, elle est sur une tige conduite par une mobylette, ce qui donne le côté chaotique, et ça permet de passer à travers les pare-brises. Puis des techniciens chopent la caméra et continuent à courir dans la maison, puis la remettent sur un autre socle et ça repart. Voilà. Dans 1917, ils ont utilisé ce système-là. Il y a un film qui est tout récent.
Oui, et donc et le deuxième remerciement que je voulais t'adresser, c'était que j'ai pu voir aussi comment Minuit dans l'univers, et que j'ai trouvé ça plutôt réussi aussi. Voilà.
C'est très bien.
Voilà,
bravo.
C'est un peu lent, c'est vrai, mais je l'ai trouvé très beau. Et l'histoire est vraiment, vraiment intéressante, et c'est bien moins malhonnête d'Ad Astra dont on parlait
l'autre fois. Voilà. On est bien d'accord. Eh bien, merci. Alors, ça me touche beaucoup. J'espère avoir d'autres occasions de te surprendre avec des petits films comme ça.
Bah déjà, remets ton pantalon.
Ah mince, ça se voit. Alors, voilà. Pourtant, le confinement, normalement, ça permet de télétravailler. Donc, normalement, on devrait pouvoir être à poil chez soi.
Bah oui, mais il faut cadrer vers la tête. Vers...
Ah mince. Ben, c'est ma tête.
Ah, pardon.
Ce soir, de quoi nous allons parler ? Nous allons parler de found footage, c'est-à-dire de films retrouvés. En fait, c'est un peu ça le terme, hein. C'est des films redécouverts et remontés derrière ou remontrés derrière sous forme de documentaire. Enfin, ce sont souvent des témoignages de filmés en fait, qu'on retrouve. Et c'est un type de film qui a explosé à la fin des années 90 avec Blair Witch, enfin oui. Projet Blair Witch, mais qui n'est pas aussi récent que 1990, enfin 99 en l'occurrence, pour Blair Witch. Et voilà, on va explorer ce genre-là ensemble.
Oui.
Et je me suis amusé à essayer de me remémorer tous les films que j'ai pu voir ou ne pas voir, mais dont j'ai entendu parler, parce qu'il y en a un dans le lot que je n'ai pas vu et que je pense que je ne verrai pas parce que je n'en vois pas l'intérêt, pas même de curiosité cinématographique. Mais on peut pas. Enfin, c'est un genre qui a beaucoup marqué et été utilisé dans le cinéma d'horreur et fantastique, mais pas que. On l'a trouvé aussi utilisé dans des comédies, voire dans des thrillers.
Oui.
Et on va pouvoir voilà, explorer ça ensemble.
Et c'est un genre qui offre à boire et à manger, comme on dit, parce que
il y a du très bon et il y a du très mauvais.
C'est ça. C'est un procédé qui permet aussi de raconter des choses en faisant de grosses économies, parce que forcément ça justifie une certaine mise en image, certains cadrages et ainsi de suite. Donc voilà, et puis c'est aussi un genre qui a bénéficié des différents progrès techniques. On en parlera sans doute tout à l'heure, mais c'est un genre qui s'est renouvelé à chaque nouveau progrès technique en fait de film.
Oui,
de...
tout à fait. Voilà, ça c'est vrai.
Donc voilà.
Donc explorons ça ensemble.
Avec une référence pour moi. Enfin, vas-y.
Ah mais je t'en prie, vas-y ta référence.
Bah celui qui est comme le reconnu comme le premier, même si c'est pas tout à fait le cas, c'est quand même Cannibal Holocaust.
Voilà, c'est ça. Voilà, alors c'est pas tout à fait le premier, effectivement, on trouve d'autres choses, mais Cannibal Holocaust, effectivement, est le premier qu'on peut vraiment qualifier de volontairement found footage, puisque c'est voilà. Là pour le coup, c'est réellement un effet qui, je vais mettre des guillemets, qui sert le film, puisque c'est notamment ce film-là que je n'ai pas vu et que je ne souhaite pas voir.
Pour quelle raison ?
D'abord par rapport à des raisons graphiques, enfin c'est clairement un film qui est ultra violent, qui a quand même pas mal à l'époque choqué et par sa violence. Dans les années 70 c'était pas très difficile, mais le réalisateur a quand même été poursuivi pour cruauté envers les animaux, puisque pendant le tournage certes ils n'ont pas tué les acteurs parce qu'il avait été aussi accusé de snuff movie. Mais par contre, ils ont bien sacrifié de manière extrêmement cruelle plusieurs animaux pour les biens du film. Et tu connais ma position par rapport à ça. Je suis assez rigide, mais pour moi, ça ne justifie pas.
Non. Après, je vais te faire une réponse à la con. Hein. C'est une autre époque aussi. Pas longtemps avant, Cousteau, pour observer certains animaux, balançait des explosifs pour pouvoir les récupérer à la surface. Et... moi, c'est un film que j'ai vu, c'est pas vraiment un film que j'apprécie en fait.
Bon, puis il y a quand même des scènes, c'est un genre qui s'apparente au torture porn, hein, voilà, qui est un style moi que je n'aime pas du tout en fait en termes de cinéma. Donc voilà, il y a des raisons aussi qui sont liées à voilà mes goûts cinématographiques. C'est un genre vers lequel je ne vais pas facilement, donc.
Non, puis malgré tout, le propos était aussi de dénoncer une certaine violence. C'est assez ambigu.
Alors, oui.
C'est ambigu
sa position, parce qu'effectivement, le réalisateur disait que c'est parce qu'il avait vu son fils devant des reportages dits journalistiques qu'il avait trouvé extrêmement violent, qu'il a voulu dénoncer le sensationnalisme journalistique par un film ultra violent. Bon, je ne sais pas.
Après, Cannibal Holocaust, c'est le premier gros film, on va dire, en found footage. Avant, oui. Il y avait Mondo Cain et Punishment Park, hein, qui étaient un peu sur ce principe-là. Par contre, Cannibal Holocaust n'aura pas lancé une mode du found footage comme
Blair Witch.
Il y aura plus tard, comme Blair Witch. Hein. Ça aura plutôt lancé la mode des films de cannibales, en fait.
Oui.
Il y en a eu un paquet. Voilà. Donc, à cette époque-là, pendant quelques années.
C'est vrai que le film se divise en deux parties, en fait. Hein. C'est la première partie, c'est l'expédition pour retrouver les reporters disparus en territoire cannibale. Et la deuxième, c'est les rushs retrouvés que les cannibales avaient gardés, retrouvés, où on assiste à toute la torture, les viols, les massacres, enfin bref, l'anthropophagie et compagnie.
C'est ça. Enfin voilà, ça c'est les années.
C'est un film sorti en 1980.
C'est ça.
Donc c'est à la fin des années 70, en fait, 79 le tournage.
Donc là, il retrouve les pellicules, hein, c'est ça au début du film. C'est comme ça que ça s'ouvre. Hein. Voilà.
Tout à fait. C'est une réalisation de Ruggero Deodato.
Qui était un ami aussi de Sergio Leone, qui lui avait dit justement, en voyant le film, que c'était ce qui venait de réaliser son œuvre la plus puissante, mais qu'il allait sans doute avoir des ennuis avec la justice, ce qui était le cas.
C'était le cas.
Je sais qu'il a dû prouver que les acteurs n'avaient pas été tués, mais je crois qu'il
Il avait été dans les émissions de télévision pour effectivement le démontrer.
Voilà.
Tout à fait. Bon, il a une filmographie qui n'est pas extraordinaire. Hein, de tous, peut-être une des plus connues, ça va être Les Barbarians, qui était l'adaptation d'un jeu vidéo
avec les jumeaux.
Avec les jumeaux, c'était Peter et David Paul, c'était franchement pas fameux.
Ça surfait sur la vague Conan le Barbare.
C'est ça, oui, mais enfin, le talent en moins.
C'est ça.
On peut être ami avec Sergio Leone et faire des mauvais films.
Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Oui, bien entendu. Après, moi,
j'ai un petit freeze chez toi, Fabrice. Alors, le temps que tu retrouves un petit peu ta connexion, ce que je peux aussi amener un petit peu, c'est que j'étais sur Sens Critique, en fait. Et oui. Sur Sens Critique, ils ont recensé 324 films de found footage. Ce qui est énorme. Enfin, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Dont certains sont quand même plutôt sympas. Moi, j'en ai retenu quelques-uns. Alors, je ne sais pas si tu as retenu les mêmes. J'ai retenu forcément Cloverfield, parce que tu sais que j'aime ce film.
Et je l'aime beaucoup aussi. Mais j'ai eu la chance de le voir au cinéma.
Voilà. Je ne retiens pas Blair Witch, parce que Blair Witch, pour moi, la partie plus réussie du film de Blair Witch, enfin du projet Blair Witch, c'est sa campagne de pub.
Oui.
Parce que le film en lui-même n'est pas très intéressant. Enfin, pour moi, ce n'est pas un film qui m'a fait peur, ce n'est pas un film qui m'a mis mal à l'aise. C'est un film qui m'a appris que quand on était devant une caméra, il valait mieux se moucher. Voilà. Mais le film est... En fait, a fait le buzz par sa grande campagne de publicité plutôt que par sa qualité visuelle. Surtout qu'on parle d'étudiants en cinéma. Bon, les étudiants en cinéma ne filment pas comme on voit de manière amateur sur ce film.
À mon avis, c'est un premier trimestre.
C'est un premier trimestre, oui.
Ouais.
C'est dommage.
Mais moi, je l'ai vu au cinéma. Je suis allé motivé par la campagne de pub. En plus, il communiquait aussi sur le fait que c'était un des films parce qu'il était il est sorti en France après les États-Unis, mais c'était un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma parce qu'il a coûté peanuts en fait. Hein. C'est surtout la campagne de pub qui a été réussie. Je crois qu'ils ont même publié des affiches, des avis de recherche des acteurs du film. Je suis allé le voir au cinéma, c'était assez bien parce qu'il y a une tension qui se met en place quand même. Sauf qu'à la fin, au final, il se passe rien. Et regarder un film filmé au caméscope pendant, je crois, il doit pas durer très longtemps, je crois qu'il dure 1h15, un truc comme ça. Sur grand écran, au bout d'un moment, c'est saoulant, quand même. Voilà. Surtout qu'il est, au final, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, il ne se passe pas vraiment grand-chose. Et voilà, c'est assez décevant.
C'est vrai. Alors, on a aussi dans la série les Paranormal Activity. Puis les Paranormal Entity, les Paranormal Paranormality, enfin tout un tas de films qui ont surfé là-dessus, qui sont pour le coup là, c'est enfin, on se décale un peu du found footage. Ça reste dans cette catégorie-là, mais ce n'est pas des films retrouvés. C'est des films... tu as été vu. Des films de caméras de surveillance. Enfin, bon. Celui que je citais tout à l'heure, là, c'est Cloverfield. Je l'aime beaucoup parce que alors c'est un film de 2008 qui a des moyens, qui a des gros moyens. Parce que d'abord, il m'a énormément surpris par la qualité de ses effets visuels qui sont très, très bien intégrés dans le tournage. On est sur un film qui est retrouvé après une énorme catastrophe, puisqu'en fait, il s'agit d'un film qui est retrouvé bien après le décès des acteurs et probablement bien, bien après la scène finale qui est New York qui se fait raser, en fait, hein, puisque les protagonistes du film sont dans Central Park sous un pont. Ils n'ont pas pu être évacués et la ville est rasée. Mais les effets spéciaux sont hyper bien intégrés. Ça a été ma première grosse surprise. Et j'aime beaucoup ce film aussi parce qu'on est vraiment sur le principe du found footage, c'est-à-dire la réutilisation d'une pellicule ancienne pour tourner un nouveau film. Et cette pellicule va être retrouvée. Il y a des passages où il y a vraiment ce côté de palimpseste. C'est-à-dire, on est sur ce truc qui est caméra épaule complètement fou d'une fuite en avant perdue d'avance. Et de temps en temps, on a une scansion avec des petits enregistrements, des petits passages de ce qui avait été enregistré préalablement sur la pellicule, où on voit la vie où ça va bien, c'est une rencontre amoureuse, c'est des souvenirs, je ne sais pas si tu te souviens, du type dont on fêtait l'anniversaire et de sa copine dans des moments très heureux. Et c'est vraiment des scansions très, très courtes, mais qui, je trouve, rajoutent au côté dramatique du film.
Oui.
Et pour moi, ça, c'était une grande réussite, globalement. Le film n'est pas très long non plus. Il dure 85 minutes, hein, donc c'est assez court, hein, 1h25. Mais c'est bien filmé. Il y a de gros moyens et à aucun moment on pense, enfin, on a l'impression qu'il y a toute une équipe derrière qui travaille d'arrache-pied pour le tournage. Oui. Donc il y a ce côté de. C'est ce qui manquait à Blair Witch en fait, ce côté de tension dramatique.
Le côté found footage est justifié parce qu'il nous met au cœur de l'action. En plus, qu'il y a très bien. Moi j'ai trouvé. Moi je voulais pas aller le voir au cinéma parce que je sais plus pourquoi, mais c'est mon épouse qui m'a dit mais si tiens on va tenter ça, ça a l'air sympa. Moi ça me tente et en fait j'ai pris une grosse parce que c'est très bien amené. Ça commence dans une fête sur les toits de New York, il y a un copain qui décide de tout filmer, tout ça se tient relativement bien, à part moi je trouve la séquence dans l'immeuble qui est penché, qui est un peu too much, mais bon qui est quand même hyper spectaculaire. Et le fait d'être en full footage, enfin en caméra caméscope, en fait, on est au cœur de l'action. Et comme les protagonistes, en plus avec la communication qu'ils avaient fait sur le film, on savait pas vraiment ce qui se passait non plus. On savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait à New York. Donc on se retrouve exactement à accompagner les acteurs dans New York. Et il y a des scènes d'une réussite mais extraordinaire. Moi je me rappelle la scène de la
décapitation. La décapitation de la Statue de la Liberté avec la tête qui atterrit plein milieu de la rue. Alors ça, moi, ça m'avait scotché dans le fauteuil.
Oui, et puis c'est pareil. Et puis ça va crescendo, c'est que comment il y a une soirée sur un toit de New York, un rooftop comme on dit de façon connasse maintenant, sur une terrasse de New York. Et puis les gens voient qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas nettes. Ils commencent à filmer vers Manhattan en fait. Et là, il y a des explosions gigantesques qui passent au-dessus des gratte-ciels. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent tous à paniquer. Ils se disent qu'ils vont se barrer. Ils descendent dans la rue. Et dans la rue, il y a un truc qui arrive, c'est la tête de la Statue de la Liberté. Quoi. C'est vraiment bien amené. Après, il y a toute l'histoire du pont de Brooklyn. Moi, il y a Et puis le cheminement, c'est assez logique, en fait. Ça paraît logique. Le cheminement des gens dans la ville, ça paraît assez logique. Le fait qu'ils se réfugient dans le métro, parce qu'à un moment, ils sont dans une rue. D'un côté, il y a... Maintenant, on peut spoiler, hein, parce que c'est un film qui est connu quand même. Il y a prescription, c'est un film de 2008. D'un côté, il y a le monstre, et puis quand les protagonistes de l'histoire vont pour faire demi-tour, ils se retrouvent face à la moitié de l'armée américaine qui est face au monstre et qui va ouvrir le feu. Et eux, ils ont qu'une échappatoire, c'est la bouche de métro qui se situe dans la rue, quoi. Et c'est cette scène-là, elle est vraiment, vraiment bien. Parce que le monstre est énorme et que nous, on se retrouve à 1m80 à la taille du gars qui filme, en fait.
Oui, c'est ça. Et ouais, tout est bien pensé dans ce film. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Ouais. Et le film est réalisé, d'ailleurs, c'est pas un branquignol qui réalise ce film, puisque moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un film Non, c'est un film de comment J.J. Abrams.
Produit par J.J. Abrams.
Abrams, oui. Voilà. Et c'est un film réalisé par Matt Reeves.
Matt Reeves, ouais, tout à fait.
Et Matt Reeves qui après a réalisé notamment la Planète des Singes, l'affrontement, et la Planète des Singes, Suprématie, qui sont quand même franchement réussis.
Oui, tout à fait.
Et puis là, il est en train de terminer le très attendu, enfin pour moi, The Batman avec.
Pattinson.
Pattinson qui joue dedans, et je suis sûr que ça va être un très bon film. Voilà.
Oui, ça a l'air très sympa. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que effectivement, la thématique de prendre un Batman un peu façon années 60 décalé, ça a l'air assez sympa. La voiture est. Enfin, promet pas mal de choses.
Oui.
Donc on en parlera. On fera peut-être une spéciale Batman.
C'est ça. Ça pourrait être bien.
Ça fait une spéciale en plus à faire.
Ouais.
Alors, il y a un autre film aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Qui reste un film fantastique en footage. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est Troll Hunter. Il n'est pas très connu.
Non, il est sur Shadow, je crois. Donc,
Je t'invite à le regarder. Parce que le... alors c'est un film norvégien, mais le thème principal, c'est des chasseurs de trolls, en fait. Comme ça a l'air un peu rigolo, mais ils sont persuadés que dans le Grand Nord, il y a des trolls qui vivent et qu'on peut peut-être les filmer. Et j'ai eu peur d'avoir un projet Blair Witch avec un truc où le troll serait une arlésienne qui viendrait jamais, quoi. Et en fait, là encore, les effets spéciaux sont très réussis, vraiment. C'est on les voit, les trolls. Je spoil un peu, hein, le film est de 2011, donc c'est pareil, il a 10 ans, on commence à se dire qu'il a prescription. Mais l'intégration de la bestiole, la manière dont c'est filmé, etc., m'a rappelé Cloverfield, avec un budget quand même beaucoup moins conséquent. Et puis, voilà, le réalisateur n'est pas très connu, hein, André Herval. Le film est exclusivement norvégien. Enfin, c'est très très bien amené aussi. Le scénario est pas très complexe. Hein, c'est des chasseurs de fantômes à la norvégienne, mais là-bas les fantômes font 2 mètres de haut, 2 ou 3 mètres de haut, et se tapent dessus avec des arbres. Mais le film vaut le coup d'œil. C'est très dépaysant, c'est bien filmé, c'est prenant, c'est pas très long non plus.
C'est un petit film qui a bien tourné à l'international, parce qu'il a eu un bon succès public, en fait.
Ouais, tout à fait. Mais mérité. Enfin, il fait pas partie des films les plus connus en la matière, mais il fait partie des curiosités à découvrir.
Moi, dans les films, moi, c'est pas du vrai fun. Enfin, je sais pas si tu as terminé sur Troll Hunter.
Oui, j'ai terminé, oui.
Moi, dans les films, c'est pas vraiment du fun footage, quoique. Moi, c'est arrivé près de chez vous que j'avais bien aimé.
Ça pourrait être tout à fait qualifié.
Parce que, pareil, il y a prescription, parce que le film a. Quel âge ça lui fait maintenant, ce film-là? 26 ans. Mais en fait, ils meurent tous à la fin, donc on peut estimer que les pellicules ont été retrouvées. Mais c'est aussi une critique assez violente contre la. C'était pas la télé-réalité, puisque ça existait pas encore à l'époque. C'était les reality shows ou les documentaires un peu à la striptease, mais c'est surtout
ça visait. Tout à fait.
Voilà.
Ouais.
ou une équipe de télé composée d'un caméraman et il doit y avoir un caméraman preneur de son. Et puis ils suivent un tueur à gages qui est joué par Benoît Poelvoorde. Et le film est c'est un humour noir, mais terrible. C'est terrible.
Voilà. Ah bah, à l'époque, c'était impensable de voir ça. Il fallait que ce soit tourné par un Belge.
Ah oui, c'est ça. Benoît Poelvoorde et en fait, le casting global du film est extraordinaire, sachant que quand vous regardez le générique de fin, je crois que Poelvoorde, en fait, il tue quasiment toute sa famille, puisqu'il y a sa grand-mère qui y passe. Sa mère dans le film, elle est vraiment jouée par sa mère. Et il y a de tout. Enfin, il nous explique comment lester des corps. Enfin, pourquoi faut pas tuer les enfants. C'est pas pour les raisons que vous pensez, c'est que c'est pas rentable. Enfin, c'est assez horrible. C'est très drôle. Bah, ça fait pas rire tout le monde, comme on peut s'imaginer. Et c'était un vrai ovni ce film-là dans cette époque-là, parce que c'est vraiment noir. C'est vraiment un film crade en fait. Là, mais il est en noir et blanc. L'image est crade.
C'est dérangeant.
Et puis la façon de parler de Poelvoorde, elle est horrible en fait. Tout est voilà. Donc c'est un film qui moi m'a fait beaucoup rire. À certains moments un peu moins, mais en même temps voilà. Et puis c'est bon d'avoir honte de rire sur certains trucs. Voilà. Donc c'était assez pour mémoire on l'avait passé au lycée en projection un peu publique et la moitié de la salle s'est bidonnée, l'autre moitié pas du tout. Voilà. Et il y avait eu aussi une petite histoire d'affiche où en Belgique, en fait sur l'affiche, il y a Benoît Poelvoorde qui tient un flingue et qui tire sur quelque chose. Et en France, l'affiche avait été retoquée parce que c'était une pétine qu'on voyait dans la giclure de sang, comme si c'était un bébé qui avait été tué par Poelvoorde. Donc en France, l'affiche était un dentier parce que c'est plus moral de tuer. De tuer une vieille personne qu'un bébé. Voilà. Ouais. Donc le film Star Trek près de chez vous date de 93.
Voilà. C'est ça. Voilà. Il a été quand même présenté au Festival de Cannes en 92.
Ah oui, ça je savais pas.
Ouais. Il avait eu le prix de la semaine de la critique qui est le prix spécial de la jeunesse. Comme quoi à l'époque on était jeunes, mais on avait bon goût. Ouais. Alors, bah, pour moi, il fait partie de la catégorie. Il n'y a pas de souci. Un autre film que tu as aimé découvrir et pour moi pourrait en faire partie. Je dis pourrait parce que c'est pareil, c'est un ovni, c'est Victoria.
Oui.
Victoria, c'est un film qui fait plutôt partie de la catégorie des Shaki films, c'est-à-dire tout est en caméra épaule. Donc ça.
Sauf qu'il n'y a pas réellement de caméraman. Le caméraman n'est pas ça. Protagoniste.
Voilà. En fait, oui. Ça sera c'est le spectateur témoin qui suit tout le monde. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout à fait dans cette catégorie-là, mais j'ai envie de le mettre parce qu'il a quand même d'abord cette particularité d'être un film à voir absolument. Il a une autre particularité, c'est que c'est un film plan séquence.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est sur un plan séquence de 2 heures et quelques. Je ne sais plus la durée totale du film, mais c'est assez impressionnant pour un film de ce calibre-là. Hein. Faut comprendre que plan séquence, c'est-à-dire que il n'y a pas une seule coupure. C'est-à-dire du moment où la caméra commence à partir au début du film, on va jusqu'au générique sans aucun montage.
C'est un vrai plan séquence.
C'est un vrai plan séquence.
Pas comme dans 1917 où c'est un montage en fait.
Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, puis il y a des changements de plan, il y a des choses comme ça. Là, on n'a jamais un changement de plan. Mais effectivement, le spectateur fait un peu partie de cette virée, virée mortelle. Voilà. J'avais envie de reparler de ce film-là. J'en avais déjà parlé une fois. Je le replace là parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu,
il faut un petit coup d'œil. Il y a deux Victoria qui sont sortis. De façon très rapprochée, c'est pas le Victoria réalisé par Justine Triet avec Virginie Efira et Vincent Lacoste. Hein. Ah non, c'est Victoria réalisé par Sébastien Schipper, c'est un film allemand.
C'est ça, tout à fait.
Avec Laia Costa et Frédéric Lowe. Voilà, je le lis. Hein, c'est pas.
Il a reçu énormément de prix, hein, d'ailleurs.
Enfin, oui.
un film qui a été très très nommé dans les festivals, qui a reçu énormément de prix et qui sont mérités en fait. On peut le trouver sur Amazon Prime. Il est en ce moment disponible.
Oui, et puis ça, c'est un vrai plan séquence. D'ailleurs, quand on fait un peu attention, il y a quelques erreurs qui sont commises dedans. Mais quand on le regarde, ça se voit pas. Hein. Par exemple, je crois qu'à un moment, l'actrice appelle un des personnages par son nom d'acteur, par son vrai prénom. Il y a des petits trucs comme ça. Voilà.
Mais ça passe très bien, en fait.
Ça passe très bien, ouais. Ouais. Et puis, quand on regarde bien la façon dont il se déplace, on voit bien aussi que toute l'action se déroule dans un tout petit pâté de maison. Voilà.
C'est ça.
Parce qu'il tourne.
Quand on le revoit et que ça, on commence à repérer des choses. Ceci dit, quand on le voit la première fois, c'est bluffant.
C'est surtout quoi, quand on le regarde, on se demande comment ils ont fait. Ça se voit un petit peu, mais ça enlève rien du tout à la qualité du film. C'est juste que c'est très malin, en fait. C'est vraiment très malin. Voilà. Et les acteurs sont très bons, notamment l'actrice qui joue Victoria, qui est... Enfin, de pouvoir jouer une heure et demie comme ça...
Ah ouais, elle crève l'écran.
C'est vraiment chouette. Ouais.
Je te propose de faire une petite pause musicale.
Ouais.
Si notre ami Joël, il est là. Mais oui, il est là. Je le vois avec son disque vinyle dans les mains. Alors, il va nous faire une surprise.
Il y a peut-être le son. Il y a sans doute le son.
Don't play.
Comme quoi, il faut couper les micros. Allez, vous écoutez toujours Le Masque et la Tronçonneuse sur l'autre radio. Aujourd'hui, on parle des films de found footage. Ça, le titre que vous venez d'entendre, d'ailleurs, c'était En voiture Simone, Au revoir Simone, pardon, avec Shadows. Voilà.
Très, très bien.
C'est sympa.
Décidément, on leur fait de la pub à Shadows.
oui, bah, c'est mérité. D'ailleurs, Troll Hunter est dessus. Je ne sais plus qu'est-ce que. Il y a pas mal de found footage qui sont sur ce site. Moi, je me suis tapé des revenge pendant mon petit arrêt. C'est sympa aussi. Voilà. Les films où souvent il y a un groupe de consanguins qui font des misères à des filles, et puis la fille, elle ne meurt pas, et puis elle revient. Voilà, c'est assez
As-tu
sympa.
As-tu vu le Pregnant Revenge ?
Pas encore. Moi, c'était Spit on Your Grave, et puis Revenge tout court. Revenge, un film français où en gros plan, il y a un mec qui met bien, je dirais, 45 secondes à s'envoler un bout de verre dans le pied, voilà, en fouillant bien dans sa voûte plantaire. Ça fait mal. Ça me fait très mal.
On a eu, puisqu'on était sur notre lancée, nous avons aussi un réalisateur que j'aime beaucoup, Georges Romero.
J'allais en parler.
C'est vrai. Diary of the Dead.
Oui, qui n'a pas une très bonne critique, mais que moi, j'aime beaucoup.
Et j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est pareil, c'est pas tout à fait une found footage, parce que en fait, le propos, c'est plutôt le décalage entre l'horreur et l'horreur filmée. La distance que la caméra donne à quelque chose qui pourrait être horrible. Mais grosso modo, tout est filmé par le biais d'un téléphone portable, je crois. Hein. C'est ça,
Oui, là, par rapport à Victoria dont on parlait tout à l'heure, là, le caméraman existe. C'est un personnage qui existe. Voilà. Et de mémoire, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est une équipe qui tourne un court-métrage. Et il se passe une invasion de zombies et ils décident d'informer les gens. Voilà. Et c'est une bonne critique. Romero, il a souvent eu un petit temps d'avance sur son temps, sur son époque, parce que là, il y a une critique ouverte des médias et de la façon dont certains se disent qu'ils vont donner la vraie information aux gens, quitte justement à trafiquer un peu l'information qu'ils donnent. Voilà. Et en dehors de ça, c'est un très bon film d'horreur. Voilà.
Oui, il est très réussi, oui. Mais je me rappelle de cette séquence où il y a les zombies là, qui passent sous... c'est le souvenir que j'en ai, sous le bus, ils se font écraser, c'est absolument horrible. Oui. Le mec, en le filmant avec son téléphone portable, trouve ça beaucoup plus marrant. Et ce décalage, en fait, que le téléphone portable peut donner à une séquence horrible, on le voit bien hein, d'ailleurs, hein, les trucs sur Twitter, YouTube, etc., qui sont toujours filmés un petit peu à l'arrache avec le téléphone portable, perdent de l'intensité dramatique. Ça devient un truc un peu un témoignage à distance, comme on regarderait n'importe quel reportage à la télé, alors qu'on est vraiment quelque chose de beaucoup plus cru, quoi.
C'est ça, ouais.
Et ça, c'était très réussi.
Oui. Bah ouais, c'est ce que Romero, c'est ça qui est bien dans sa carrière. Il a toujours, par exemple, quand ça devenait de bon ton après 28 jours plus tard de défourailler du zombie à tour de bras, lui, il leur a donné un côté humain dans Land of the Dead.
Land of the Dead, oui.
Et qui est pour moi aussi un film très sympa. Surtout que ça me faisait plaisir de voir. Les effets spéciaux sont réussis. Il n'y a pas que ça, hein. C'est vraiment le casting. Il y a un casting d'acteurs connus, ce qu'il n'y avait pas beaucoup chez Romero en général jusque-là. Et voilà. Donc c'est, d'ailleurs, Diary of the Dead, je crois que c'est son avant-dernier film. Je n'ai pas vu le dernier, Survival of the Dead. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu, Laurent.
Non. Non, je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas vu son dernier film non plus, c'est vrai. Celui que j'attends Le prochain film de mort-vivant que j'attends, c'est celui de Zack Snyder, Army of the Dead.
La série, ouais. Mm. Oui. Ouais, il m'a quand même refroidi un petit peu avec son
Snyder dernier film.
Non, je ne l'ai pas vu encore. Je vais sans doute le regarder, puisque j'aime assez ce qu'il fait, mais je n'ai pas du tout aimé le Man of Steel.
J'avais bien aimé, moi.
Moi,
il n'y a que le dernier quart d'heure, mais on pourra faire une spéciale On pourra en parler dans le spécial Batman d'ailleurs. Tiens.
Oui, non, pour moi, il y avait trop de Jésus dans ce film. Alors que pour moi, Batman, Superman n'est pas Jésus. Ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, c'est pas. Bref. Et le deuxième, le Batman contre Superman, avait une grosse qualité. C'était sa scène d'ouverture qui corrigeait beaucoup de défauts de Man of Steel.
Bah, c'est bien ce que je voulais dire. En parlant de Man of Steel, c'est. Pour moi, le gros défaut du film, c'est la dernière scène qui est rattrapée dans le Batman versus Superman.
C'est ça.
La seule qualité du film, d'ailleurs.
Quasiment, ouais. Ouais. Parce que Wonder Woman, qui est très bien, tombe un peu comme, sur un, comme un cheveu sur la soupe. Et puis le méchant de fin, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est en fait le méchant du premier qui est ressuscité sous stéroïdes. Mais en image de synthèse, c'est un peu relou. D'ailleurs, je trouve, je sais pas dans, au niveau de timing, mais je me demande si dans Deadpool, il se moque pas un peu de ça, de ce genre de fin. Voilà. Bref.
Ah, si, tu as raison dans le 2. Effectivement, dans Deadpool 2, quand Colossus s'attaque au Juggernaut,
c'est ça.
Il fait une réflexion en disant oh, des deux monstres sacrés qui s'affrontent en image de synthèse. Oui, il fait la réflexion.
C'est ça. Alors moi, il y a un autre film que j'avais bien aimé, qui pour le coup, le caméraman existe. C'est un petit peu du found footage, pour moi ça en est, même si ce n'est pas une caméra qui est retrouvée alors que les protagonistes ne sont plus là. C'est Chronicle.
Eh oui, Chronicle, alors je voulais en parler aussi, bah, c'est très bien que tu abordes.
Chronicle qui, pour moi, présentait la bonne surprise d'être une variante très 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 sympa sur les films de super-héros qui déjà à l'époque, parce qu'en 2012, il y en avait déjà un paquet qui sortait. Le film est réalisé par Josh Trank avec Michael B. Jordan, Michael Kelly et Joe Vaz. Ce sont trois copains qui un soir, vont voir une météorite tomber. Ils vont aller voir où elle est tombée. Et ils vont tomber dans une genre de grotte, dans le cratère en fait. Et puis ils vont perdre connaissance et en ressortant ils vont se rendre compte qu'ils développent des pouvoirs, tous des pouvoirs un peu différents, je crois. Hein. Non, c'est les mêmes pouvoirs, plus ou moins avec plus ou moins de force. Et puis on va les voir chacun prendre un chemin différent par rapport à leurs nouvelles capacités. Et dont un gamin qui est un peu mal dans sa peau, qui lui va carrément virer au super vilain en fait. Voilà.
Oui, alors c'est un bon film aussi pour ça. Je t'ai interrompu, excuse-moi, mais il désacralise le genre du super-héros complètement.
C'est-à-dire ouais, c'est ça. Au début, ils font des blagues potaches un petit peu entre potes, hein. Déplacer des bagnoles. Enfin, je crois que c'est même soulever les jeux de défi ou trucs dans le genre ou les
bloquer.
Oui,
voilà.
Et au fur et à mesure, ils vont se prendre de plus en plus au sérieux. Voilà. Et donc, il va naître une opposition entre deux des protagonistes et celui qui est en train de carrément dériver. Quoi. Et ce film est très, très bien. Enfin, c'est vachement créatif. Les effets spéciaux sont plutôt réussis aussi. Il y a des scènes très drôles, notamment la scène de l'apprentissage avec la batte de baseball qui est très sympa.
Qui est très sympa.
Moi, c'est la fin qui m'a un peu déçu parce que en fait, le film est filmé... Il filmait avec caméscope ou téléphone portable pendant quasiment toute l'histoire, sauf à la fin où on voit bien que le procédé arrive au bout. Et là, ils se servent au lieu d'abandonner carrément le procédé et de passer à autre chose, ils se servent des caméras de surveillance, ils se servent de plein de procédés, de plein de caméras qu'il y a dans la ville, les caméras de surveillance dans les magasins, les caméras de surveillance dans la rue. Je ne sais plus ce qu'ils utilisent encore comme caméra. Et on sent qu'ils sont au bout du bout, sachant qu'à la fin, ça se termine dans les airs. Enfin, c'est quand même nettement moins bien. Ils auraient pu aller moins dans le spectaculaire, ça aurait fonctionné quand même, je pense.
Ouais. Alors, on a aussi, pour ce film-là, quelqu'un qui est assez doué au scénario, c'est Max Landis, qui est le fils de John Landis.
Oui.
Il avait scénarisé le film. Il s'en sort plutôt bien. Il s'en sort bien sur la plupart de ses scénarios. Faut quand même le noter, mais ça a été son premier gros projet en fait. Enfin, c'est le premier long métrage qu'il a scénarisé. Après, il en scénarisera d'autres. Hein. Il va scénariser Bright, notamment de David Ayer, et puis la série Dark Gently, qui est plutôt réussie, même si la deuxième saison manque un peu de moyens, mais qui est assez sympa.
Je connais puis, pas cette série.
Ah, je la conseille, c'est truculent. Et puis, il y a un autre film, parce que les Français aussi hein, font du food footage. Et il y en a un que j'ai retenu, parce que je le trouve plutôt, plutôt réussi. C'est Babysitting. Où c'est le même principe, hein, on retrouve une cassette vidéo. C'est en fait, l'histoire, c'est un riche, enfin un chef d'entreprise en fait à l'international qui décide de partir en week-end avec son épouse, sa jeune épouse, et faute de babysitter, il va embaucher le type qui est à la réception sur un petit quiproquo. Et lorsqu'il revient à l'issue de son week-end, la maison est dévastée, le voisin a disparu et ne reste qu'une cassette vidéo dans le caméscope qui va essayer de... Enfin, ils vont la regarder parce que le fils aussi s'est gardé, a disparu. Donc, enfin, la maison est sans dessus-dessous. Il y a quelques petits trucs assez... Moi, j'ai adoré notamment le poisson sous LSD. Le poisson rouge sous LSD, ça m'a fait pleurer de rire parce que ça se passe en plus en arrière-plan. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, on ne le voit pas. Mais en fait, le poisson est complètement fou.
J'ai aimé le côté, la blague là-haut aussi, où ils attachent un...
Oui, voilà, bah, le ballon, voisin, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Mais il y a une, enfin c'est le premier film où je vois une course de Mario Kart grandeur nature aussi bien réussie aussi. C'est fabuleux quoi. Et donc c'est un film de Philippe Lachaud et de Nicolas Benamou, hein, mais qu'on connaît aussi pour d'autres films. Hein. Ils ont fait Babysitting 2, mais ils ont fait aussi Nicky Larson qui est plutôt sympa, même si c'est pas une grande réussite, mais c'est pas un grand moment de cinéma, mais c'est un moment de cinéma plutôt sympathique. Et là aussi, on est sur food footage, c'est-à-dire on retrouve une cassette et c'est en la visionnant qu'on comprend l'histoire, sauf qu'on est sur une comédie. Comme on disait tout à l'heure, c'est plutôt un genre qui est attribué au fantastique et à l'horreur. De l'avoir décalé du côté de la comédie, c'était aussi plutôt une bonne idée.
Après pour rendre à... Enfin, je ne sais pas si c'est César, mais Babysitting, c'est ça hein. Oui, Babysitting. Ouais. J'ai vu la fin du premier que j'avais bien apprécié. J'ai vu le 2 qui est le premier, mais il n'y a plus d'effet de surprise, il n'y a plus rien, donc c'est pas extraordinaire.
Je n'ai pas vu le second, hein, je dois reconnaître.
Tu peux gagner du temps en ne le regardant pas.
D'accord.
Par contre, moi, je trouvais que c'était ce que les Français savent faire au niveau comédie, c'est-à-dire ils ont repris beaucoup de ce qu'il y avait dans Projet X en fait.
La Projet comédie, c'est aussi un film qu'on pourrait attribuer au found footage.
C'est ça, parce que c'est pareil, c'est un film qui est filmé par une caméra et le caméraman est un des protagonistes du film. Et c'est un gars qui organise une soirée chez lui pour être cool. Il organise une soirée par les réseaux sociaux et comme on en a vu quelquefois dans l'actualité, il pense inviter une vingtaine ou une cinquantaine de personnes et il y a des centaines et des centaines de personnes qui vont arriver et la baraque va être ravagée, voire carrément le quartier. Quoi. Voilà. Et c'est très drôle aussi, la musique est très sympa. C'est comment... Alors l'acteur qui joue dedans, il est connu, j'ai son nom qui m'échappe. Hein.
Dans Projet X ou dans...
Dans Projet X, ouais. C'est... Ça va me revenir. Ah bah non, pas du tout. Je confonds. Voilà. Donc c'est des jeunes acteurs. Non, je confonds avec un autre acteur. C'est pas grave. Voilà. Et je m'étais bien marré, ouais, parce que là c'est pareil, ça part. Pour le coup, ils vont carrément dans l'excès et c'est très bien. Le quartier est détruit.
Bon. Et puis donc oui, voilà. Mais moi, je ce moment-là de cinéma un peu franchouille. Bah, je trouve des comédies françaises réussies, on en a de moins en moins, et que celle-ci était plutôt pas mal. Alors, elle commence à dater aussi, elle est de 2014, mais moi, je m'étais bien marré. Quoi.
Ah, de ce que j'ai vu, j'ai bien apprécié aussi. Et puis, c'est une bande relativement, enfin, plutôt sympathique quand même, l'ex-bande à Fifi qu'il y avait sur Canal+, à l'époque où Canal+, ressemblait pas à ça. Voilà, et c'était plutôt sympa, ouais.
Ils avaient fait aussi Alibi.com, ils ont fait quelques films. Après, c'est plus ou moins réussi, mais il y a quand même toujours cette bonne humeur. Pour moi, Babysitting reste leur meilleur. parce qu'ils sont, ils ont su aussi voilà, surprendre un peu par le voilà, par ce côté de film retrouvé, même si ça finit pas aussi dramatiquement qu'un Blair Witch.
Oui. Alors moi j'ai un full footage que j'ai essayé de regarder justement sur Shadow, c'est The Bay de Barry Levinson. Mais malheureusement, je sais pas ce qui se passe, je pense que ça vient pas de chez moi le problème, ça vient plutôt de chez eux, mais le film se bloque après le générique. Hein. Voilà. Donc ça se le son déroule mais pas l'image. Donc c'est compliqué à voir. Après oui, c'est un film assez sympa sur un désastre biologique. Hein. Avec des gens qui subissent des mutations après avoir été contaminés par un parasite. Voilà. Donc à voir pour plus tard. Mais c'est un film qui est assez bien coté. Voilà. J'ai aussi un box-office américain des films de footage. Il date de 2012, mais le film le plus rentable, c'est Projet Blair Witch. Enfin, qui a rapporté le plus d'argent, c'est Projet Blair Witch. Il a rapporté presque plus de 140 millions de dollars, sachant que le film, à la base, il a coûté, je crois, moins de 50 000 dollars. Mm-hmm. Ça fait une belle pirouette. Et autrement, il y a les Paranormal Activity, que j'aime. Moi, c'est pas ma tasse de thé, je sais pas pourquoi.
C'est pas du tout non plus, non.
Parce que je trouve que les effets sont un peu faciles.
Les effets sont faciles, le film est ennuyeux.
Oui. Donc, ils arrivent, le Paranormal Activity, le premier arrive en premier, après, c'est Paranormal Activity 3, ensuite le 2, et après, il y a Cloverfield qui arrive. Cloverfield qui a une suite aussi qui est plutôt pas mal, Cloverfield Lane, que j'avais trouvé très sympa.
Je n'ai pas vu. J'ai vu le Paradoxe, que j'ai trouvé plutôt sympa aussi, rapporté à l'ASF.
Et pour le coup, c'est pas caméra à l'épaule, mais le principe reste le même, c'est-à-dire que le principe reste le même dans Cloverfield 2, Cloverfield Lane. Les gens sont enfermés et n'ont pas de vue sur l'extérieur. Et la fille qui est enfermée avec un des protagonistes, qui a été kidnappée, le protagoniste lui dit, qui est joué par John Goodman, lui dit qu'il la garde là pour la protéger, mais elle ne sait pas du tout ce qui se passe dehors et elle ne sait pas du tout qui est cette personne. Donc elle est plus ou moins obligée de lui faire confiance, sauf que c'est un personnage qui est très inquiétant. Donc il y a Chronicle aussi qui a rapporté 62 millions de dollars, après Devil Inside, Projet X. Le dernier Exorcisme, je ne savais pas que c'était un food footage. Et puis, en queue de peloton, il y a Diary of the Dead, voilà, qui n'est pas si mal que ça, quand même.
Il y en a un, enfin, il y a une série dont on n'a pas parlé, mais moi, j'avais beaucoup aimé le premier, qui a fait l'objet d'un remake américain, c'est REC.
Oui.
REC.
Qui est espagnol.
Qui est un film espagnol qui, en fait, c'est une journaliste qui décide de suivre une équipe de pompiers, en fait, faire un reportage sur les pompiers, et elle part en intervention comme on peut avoir dans les films, les reportages qu'on connaît bien, nous, en France, où là, on suit une équipe de policiers, de CRS, de forces de l'ordre ou de gendarmerie. Là, c'est des pompiers. Et elle part en intervention avec eux, ils arrivent dans un immeuble où apparemment il y aurait eu une fuite de gaz. Donc, ils rentrent, ils commencent à vouloir évacuer les gens et ils ne peuvent plus sortir de l'immeuble. L'immeuble est clos par les forces de l'ordre et probablement les forces armées, on ne sait pas pourquoi. Mais dans l'immeuble, il commence à y avoir des disparitions et puis certains habitants de l'immeuble deviennent complètement fous. En fait, ça veut dire que c'est une infestation zombie, en fait. Et on assiste à... tout est filmé puisqu'elle veut absolument qu'il y ait un témoignage de ce qui se passe. Elle veut témoigner. Tout l'immeuble va y passer. Et on retrouvera donc cette cassette-là qui sera une sorte de témoignage. Et il y a un remake américain qui s'appelle En quarantaine. Qui est disponible aussi sur les plateformes qu'on aime bien.
Oui.
REC doit être disponible, je pense, sur Shadows. Probablement.
Oui, alors je ne sais plus si, parce qu'il y en a eu plusieurs des recs.
Il y a eu le 1, le 2 et le 3. Alors je n'ai vu que le premier. Parce que souvent, sur ce genre de film, je suis assez dubitatif sur les séquelles. D'autant plus que le 3 s'appelle Genesis. Et moi, un film qui est une suite qui s'appelle Genesis, c'est la Genèse, j'ai un peu de mal.
Oui.
Surtout que le film, en fait. L'affiche du film est assez extraordinaire puisqu'on voit une mariée avec une tronçonneuse dans la main. Alors j'aime beaucoup le visuel, mais je suis pas persuadé du résultat.
Il est plus sur Shadow.
D'accord.
Mais
et il y aurait un REC 4 aussi, apparemment. Il y a un quatrième qui s'appelle Apocalypse. Alors là, l'affiche dit tout. Dit surtout la manière dont je vais l'éviter. Puisque l'affiche représente une femme en débardeur. Je vous la décris, hein, une femme en débardeur avec au fond le nez d'un paquebot, a priori. Et elle a dans les mains quelque chose qui ressemble à une foreuse. C'est ça, c'est une énorme foreuse. Bon, on est loin de l'immeuble initial, l'infestation zombie. Là, on est plutôt sur un genre qui se rapprocherait des Resident Evil. Voilà.
Alors, je viens de regarder là sur Shadows, il y a. Ils ont 7 films qui classent en tant que found footage. Il y a Cannibal Holocaust qui est disponible. Il y a Cold Ground, qui est un film de. Bah, je crois que c'est Joe Dante d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Non, je dois me tromper.
Ça me parle pas, c'est Joe Dante.
Non, c'est pas ça. Et puis pas à ce moment-là. Et c'est pas un film récent en tout cas. Ah bah j'ai tout faux.
Il est pas de Joe Dante.
Et tout à fait. Voilà. C'est un film de 2017. Hein. Voilà. Qui se déroule à la campagne, c'est que l'affiche est fait très très rétro en fait. Et c'est pas du tout Joe Dante, c'est réalisé par Fabien Delage.
Ah oui, c'est pas du tout pareil.
Pas du tout pareil. Par contre, il a une mauvaise note sur IMDb, il est assez mal coté, donc faut tenter. Autrement, sur Shadows, il y a aussi Diary of the Dead qui est disponible, Making Of.
Ah, Making Night Of, Shot. Alors Making Of, je vais quand même mettre en garde, c'est un film ultra gore, je précise. Making Of, en fait, l'histoire, je peux en parler, l'histoire, c'est un réalisateur qui décide de faire un film d'horreur. Et je crois qu'il y a un premier mort sur le tournage, un des acteurs qui meurt de manière un petit peu horrible devant la caméra. Et il trouve ça tellement réussi au niveau visuel qu'il décide de décimer toute l'équipe de tournage en le filmant.
C'est un peu le créateur de...
Ouais, version gore.
Dupontel, version
gore. C'est plutôt gore. Hein. Enfin,
c'est un film français.
Oui, c'est un film français, oui.
Voilà. D'ailleurs, il y a aussi peut-être pas dans ce genre, mais il y a aussi un foot footage chez VHS, je ne sais pas si tu as vu ça.
Ah oui, il y en a plusieurs. Il y a 2 ou 3, je crois.
Ouais, assez... où le principe, c'est. Le premier, c'est des cambrioleurs qui tombent sur des cassettes vidéo dans leur butin. Et puis, ils se rendent compte que sur les cassettes, ils vont les visionner. Il y a des choses pas nettes qui ont été filmées. Voilà. Donc voilà. Et puis, il y a donc The Bay sur Netflix, hein, que je vais essayer de revoir parce que je n'ai pas pu. Mais voilà.
Très bien. Et il y a un film, moi, que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup son remake américain en plus de Gore Verbinski. C'est Ring, qu'on pourrait qualifier de found footage parce que, enfin, pas le film hein, en tout cas, mais toute la partie qui concerne la cassette vidéo elle-même, qui est retrouvée, qui est maudite, et si on la regarde 7 jours plus tard, on meurt, notre souffrance, etc. Et je trouve que c'est marrant d'utiliser le principe du found footage pour en faire quelque chose qui. Va hanter et va maudire ceux qui regardent. L'idée est bonne.
Le film et le remake, ouais, moi j'aime bien les deux aussi. C'est pas du tout la même ambiance.
Pas du tout.
Parce que l'ambiance japonaise, c'est quand même très particulier.
Oui, et puis ça fait appel aussi à la mythologie japonaise, donc des yokai. Mais le remake de Gore Verbinski était assez réussi. Enfin, il y a quelques petits effets moi, que j'avais trouvé très, très malaisants à voir, mais notamment le coup de la mouche qui passe d'un côté de la caméra, puis de l'autre, enfin de l'écran, puis de l'autre. Juste comme ça, qui mettent un peu mal à l'aise, qui crée de la tension. Gore Verbinski est un très bon réalisateur. Mais le film était, pour un remake, était quand même très, très bien.
Bon, bah là, il y a le gardien de nuit qui vient nous dire qu'il est temps de rentrer à la maison.
Ah mince! Bah, on a dû, oui. Mais en même temps, cher gardien de nuit, on est à la maison.
Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux.
Mais c'est l'heure de rendre l'antenne, cher ami. Voilà. Je crois que d'ailleurs, derrière, il y a une émission qui est animée par un certain Monsieur Masque.
Oui.
C'est pas. C'est pas ça. C'est pas... Juste derrière, on n'a pas.
Quand la musique j'ai fait une petite sélection musicale et après j'ai préparé quand la musique est bof sur ce soir, c'est Reservoir Dog. Voilà.
Ah, c'est pas mal. Voilà.
C'est pas mal, sachant que la bande originale de Reservoir Dog est quand même relativement courte. Donc pour faire mon heure d'émission, j'ai mis du Madonna. Ceux qui ont vu le film comprendront.
Bon, voilà. Super. Bah écoute, en tout cas, bonne émission, bonne musique et bof. Et puis bah, on peut nous retrouver en podcast, c'est ça ?
Sur le site de l'autre radio.
Sur le site de l'autre radio et si j'y pense, sur la page Facebook du Masque et de la Tronçonneuse.
C'est ça.
Dès demain. Bah oui, cher gardien de nuit, dès demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée, cher ami. Bah, la semaine prochaine. Ah non, voilà, au mois prochain.
Au mois prochain. Bonne. Merci, Joël. À plus. Salut.
Au revoir.
That's what I thought. Greater now. On and on and on.